Et salutations, bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce live du 13 avril 2023, déjà en avril, incroyable. Eh bien, ce soir, on va parler de beaucoup de choses, on va parler de livres, hein, de toute façon, c'est une carte blanche biblio, donc vous doutiez bien qu'on allait parler de ça. Mais si on va parler de beaucoup de choses, je ne vais pas le faire seul, hein, parce que quand je dis on, il n'y a pas que moi, même si là-haut, hein, on est nombreux. Avec moi, il y a Fred.
Eh bien, salut Antoine.
Salutations, comment ça va?
Bah écoute, comme tu peux le voir, avec une polaire, ce qui te donne un peu l'état des lieux de ce qui se passe ici en Moselle.
Oh,
Voilà.
oula, moi je te vois tout flou et tout pixelisé, je ne sais pas si c'est pareil pour les gens.
Ah. Écoute, moi ça va de mon côté, j'espère.
D'accord. Bon, bref, pour les
Nous
gens,
verrons bien.
donc, avant de faire intervenir notre invité de ce soir,
Oui.
on rappelle que s'il y a des problèmes de son ou d'image, n'hésitez pas à nous le dire, genre là de maintenant, tout de suite, hein. Comme ça, on
Très
corrige ça.
pixelisé, donc.
D'accord. Bon. Dépixelisé, c'est pas grave. Bon, bah, c'est ça. Hein.
Tant
Quand
ça va, c'est pas très grave. Hein, ça, à la limite, c'est pas très important. Tant qu'on
non,
m'entend,
mais bon,
ça va.
voilà, c'est un style rétro, c'est très Game Boy Color, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Bon,
Ok,
bref,
bon.
bon, c'est pas grave. Bon, bah, comme vous pouvez le voir ce soir, on va parler d'un éditeur hein, qui s'appelle bah, Les Moutons Électriques et on va en parler avec quelqu'un. On va en parler avec André François Ruault que je fais venir. Tadam! Avec nous.
Bonsoir.
Bien le bonsoir. Bon, comment va?
Eh ben, ça va.
Ben,
Ah,
ouais.
parfait.
Ben, écoute, on t'a invité en fait pour parler des moutons électriques, hein, forcément, la maison d'édition, qui est là déjà depuis un petit moment. Mais d'abord, avant de commencer de parler de la maison, on va parler d'abord un petit peu de toi, hein, de ton parcours, en tant que auteur, éditeur, anthologiste, j'en passe. Donc voilà, si tu pouvais commencer juste par te présenter vite fait, puis après on parlera de la maison elle-même si tu veux bien.
Eh bien, voyons voir, qu'est-ce que je peux dire? Ça fait 20 ans que les moutons électriques existent. Et puis, eh ben, avant, j'ai été libraire pendant longtemps. Et puis, j'ai fait un fanzine qui s'appelle et qui s'appelle toujours Yellow Submarine. Et puis, ben, ma foi, au cours des longues années, j'ai participé là, voilà, à un numéro de Yellow Submarine. J'ai participé à la revue Fiction dans le temps. J'ai co-dirigé une petite maison qui s'appelait Étoile Vive. Et puis, ben, j'ai fait des traductions, j'ai fait des anthologies, j'ai fait des tas de dessins à droite à gauche. Et puis, j'ai écrit quelques romans, quelques bouquins pour la jeunesse aussi. Voilà. Et puis, bah, de nos jours, essentiellement, je co-dirige la maison d'édition Les Moutons Électriques. Et puis, en guise de hobby, j'écris sous le pseudonyme de Olaf Koulikoff. Et il y a un recueil qui vient de paraître chez Folio. Voilà, très brièvement.
Et j'ai bon un non. Alors déjà de ce que je vois, j'ai une voix de robot spécialisée, c'est ça?
Ah, tout à fait.
Tout à fait.
La science-fiction,
Bon.
c'est parfait.
Bah écoute, je vais vous laisser continuer vite fait. Je vais peut-être rebooter un peu histoire de voir ce que ça va. Donc je te laisse
Ah.
continuer, Antoine, hein, tout de suite.
Ok, bon, c'est
Ça
pas
va aller
grave.
vite. Juste déjà pour la première question, c'est que dans tout ce que tu as écrit et dirigé au début, hein, je le vois par exemple avec l'anthologie Faits et gestes, hein, qui était chez Étoile, Les Sentiers de la Féerie chez Yellow Submarine, une appétence en fait pour la fantaisie. C'est vraiment, c'est juste une parmi d'autres en fait.
En fait, j'aime tout autant la science-fiction que le roman policier que la fantasy. Mais il se trouve que pendant très longtemps, en France, la fantasy, elle n'était pas traduite, du tout. Quand dans les années 80, j'ai découvert la fantasy, ben, ma foi, j'étais très curieux de découvrir un plan complet de la littérature qui avait été escamoté par les éditeurs français. Et ayant découvert ce pan de la littérature, ben, j'ai eu envie d'en parler, j'ai eu envie d'en publier. Et donc j'ai publié des recueils de nouvelles d'abord, et puis J'ai publié quelques essais, dont un chez Folio, Cartographie du merveilleux, et puis ainsi de suite.
Exactement.
Donc, oui, c'est devenu un peu une de mes. Enfin, ma carte principale, on peut dire, parce que je trouvais ça passionnant et que personne d'autre ne le faisait à l'époque, quoi. Donc,
Ouais, c'était fin des années 90, quoi, à peu près, hein.
ouais, c'est ça. Et puis, bon, il a commencé à s'en publier, hein, bien sûr, en France. Hein, les vieux éditeurs de science-fiction qui voulaient surtout pas entendre parler de fantasy ont fini par laisser la place. Et puis, ben, les successeurs, eux, moins bouchés, ont commencé à publier la fantasy. Puis maintenant, c'est parfaitement normal, comme c'est un pan de la littérature et de l'imaginaire normal.
Ouais, c'est-à-dire c'est presque inversé par rapport à la science-fiction, j'ai l'impression. C'est plus de fantasy que de SF maintenant.
Pendant pas mal d'années, en tout cas, ouais.
Ouais.
Maintenant, c'est en train de se réinverser. Les littératures de l'imaginaire connaissent des courants, des effets de mode. Pendant pas mal d'années, la science-fiction était devenue très difficile à vendre. Le lectorat voulait que de la fantasy. Et puis, c'est en train de s'inverser. La science-fiction est à nouveau fort demandée, et tant mieux, parce que
Oui.
c'est un peu dommage quand même de se contenter juste d'un morceau. Puis le truc stupéfiant, c'est que le fantastique, l'horreur, également est en train de revenir un peu
Ouais.
sur le devant de la scène. Alors là, on n'y croyait plus depuis les années 80, où c'était devenu quasiment impossible de vendre de l'horreur à part Stephen King. Et ben voilà, tout arrive. Donc là, en ce moment, l'imaginaire, je trouve que c'est assez génial, parce que du coup, on peut présenter à peu près tout le panel des sous-genres, des composantes principales. Voilà, c'est moins déséquilibré qu'auparavant.
Ouais, puis même en plus, on le voit bah, de toute façon avec
Ça devient vraiment. Enfin, en ce moment, c'est chouette, je trouve.
Là, bon, je vais déconnecter hein, parce que j'ai vraiment des pertes assez significatives, mais juste pour dire rapidement que on le voit de façon déjà avec le panel d'offres littéraires qu'il y a dans la BD, dans la télévision, les cinémas et dans les festivals. Il y a énormément de choses aussi qui se font de ce côté-là. Voilà,
Oui.
je reboot tout de suite. À tout de suite.
Voilà, vas-y, à tout de suite. Il revient. Voilà, c'est un professionnel, il sait ce qu'il fait. Bon. Du coup, je peux passer sur la maison d'édition Les Moutons Électriques. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu son histoire? Comment vous en êtes arrivé à créer justement cette maison et comment ça s'est passé en fait?
Déjà, j'étais resté sur la frustration de la fermeture des Toiles Vives, qui était la petite boîte que je co-dirigeais avec Gilles Dumay, qui l'avait créée. Ça s'est planté assez rapidement. Et ça avait été une expérience que j'avais trouvée passionnante. Ça m'avait ouvert des horizons que de devenir moi-même un peu éditeur. Donc j'ai été resté sur cette légère frustration, même si je faisais des bouquins à droite à gauche. Hein. Et puis, bah, j'étais libraire depuis vachement longtemps, une quinzaine d'années, et j'en avais un peu marre à l'époque. J'avais envie de changer. Et j'ai eu un petit héritage. Et j'avais, bah, en fait, devant moi, j'avais le choix. Soit racheter les librairies où je bossais, parce qu'elle allait être en vente, soit partir pour faire autre chose, pour devenir traducteur peut-être. Et puis j'ai rencontré un éditeur parisien, Patrice Duvic. Et Patrice avait envie d'un peu d'indépendance, il avait toujours bossé dans les grands groupes. Et en fait, il m'a proposé de créer une maison d'édition. Et donc, avec ses deniers et les miens, et ceux de pas mal d'associés, on a donc sauté le pas et on a créé fin 2003 Les Moutons Électriques, officiellement 1er juin 2004. Voilà. Parce que faut bien dire que moi, je sais pas faire grand-chose à part lire des livres, vendre des livres et écrire des livres. Donc voilà. Donc je suis passé de libraire, je suis passé éditeur, et puis étonnamment, je suis à nouveau libraire depuis très peu de temps, puisque donc Les Moutons Électriques ont bientôt 20 ans, et ça faisait un petit moment qu'on avait envie d'investir aussi dans une librairie. Et aux côtés d'autres actionnaires, on a créé il y a maintenant 6 mois une librairie spécialisée en imaginaire à Bordeaux qui s'appelle la librairie du Basilic. Voilà. Alors, je suis qu'un des actionnaires, hein, mais je suis l'aventure de très très près. Et en fait, ça m'intéresse beaucoup d'être aussi un petit peu un pied dans la librairie en plus de la maison d'édition maintenant.
Ah bah ça,
Voilà.
c'est un métier qu'on a du mal à lâcher. Hein. Je sais de... Ouais, pareil. Je l'ai été, j'ai très envie d'en revenir dans ce milieu-là.
Ouais.
Eh oui, c'est ça. Bah, du coup, en commençant, par exemple, les moutons électriques, ça a été quoi les premières productions des moutons électriques, historiquement?
Alors,
Et si
ça
tu t'en
peut pas.
souviens?
Ben certes, mais ça peut penser, paraître assez surprenant. Enfin, c'est assez surprenant, mais bien qu'on ait créé cette maison pour qu'il y ait de la science-fiction et de la fantasy, en fait, nos premières publications qui ont réellement marché, c'était du polar. Parce
D'accord.
qu'on avait créé, à nos débuts, une collection qui s'appelait La Bibliothèque Rouge, qui était des essais sur les grandes figures mythiques, le revoilà. Sur les grandes figures mythiques du roman policier, Fantômas, Sherlock Holmes, Arsène Lupin, Hercule Poirot,
Ouais, la vie privée d'eux, ouais.
et tout ça. Et en fait, les premières années des moutons électriques, curieusement, c'est cette collection-là qui nous a porté. Et donc, on s'était forgé une image plutôt polar. On publiait un peu des romans de fantasy, de science-fiction. Et on avait relancé le livre revue fiction. Mais tout ça ne marchait guère, à vrai dire. Et puis un jour, bah, ma foi, en 2007, si mes souvenirs sont bons, on était en difficulté. Et puis Patrice, mon associé principal, malheureusement, est mort. Et donc il a fallu un peu réinventer la maison. Un petit peu reconstruire, on n'était pas vraiment en danger, hein, mais il fallait quand même un peu se reconstruire et se repenser. Et le hasard a voulu que j'ai reçu plusieurs manuscrits qui m'ont paru excellents et que j'ai publiés coup sur coup. Et que miracle, brusquement, ces bouquins-là, ils se sont vendus. Et donc, brusquement, ben, on a publié Jeanne Avera, puis Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. Tout le monde a respecté.
Un
Donc,
petit éditeur, un petit auteur qui demande à percer encore.
voilà, c'est ça. Bah, sauf qu'à l'époque, c'était un parfait inconnu, refusé par tout le monde.
Ouais, effectivement.
Bah, j'estime que j'ai eu le nez creux. J'ai
Oui.
pas été le seul à avoir le nez creux parce qu'en fait, ce qui s'est passé quand j'ai accepté le recueil de nouvelles Jeanne Avera, bah, recueil de nouvelles par un auteur inconnu, c'est pas évident de publier ça. Or, on était en 2007 et on était un peu, on était fauchés. Et donc, en fait, j'ai été voir Folio SF. Et le responsable de Folio SF, lui aussi, y a cru immédiatement. Donc, je n'ai pas été tout seul à y croire. Et il m'a acheté le bouquin alors que le bouquin n'était même pas paru.
Ah
Je
ouais,
vous rappelle, un recueil de nouvelles d'un parfait inconnu.
c'est pas souvent, hein, effectivement.
Voilà, tous les deux, on a été bien cinglés. Les deux, on a eu bien raison. Puisque le bouquin est rapidement devenu une très grosse vente, que l'auteur m'a immédiatement soumis à un énorme roman, Gagner la guerre, et que celui-ci, rapidement, par le bouche à oreille, est devenu une énorme vente, puis un best-seller. Voilà, donc ça déjà pour une petite boîte indépendante comme les Moutons électriques, avoir un auteur best-seller, c'est incroyable,
Ça
et c'est
aide, ben
tout,
oui.
évidemment. Et puis, à la même époque, bah, ma foi, j'ai fait un tiercé gagnant, puisque j'ai aussi publié Tancrède, une uchronie de Hugo Bella-Gombach, qui a très bien marché.
Ouais,
On
excellent.
le rééditera l'an prochain. Il est épuisé depuis belle lurette, mais j'ai décidé avec l'auteur, justement, pour les 20 ans des Moutons électriques, qui sera réédité l'an prochain. Et puis, on avait publié un bouquin anglais de l'acteur Stephen Fry. Le faiseur d'histoire, et ça aussi, ça a très très bien marché. Voilà, donc on a eu, alors ça n'a pas duré, mais on a eu, voilà, un joli tiercé gagnant. Et puis, bah, à ce moment-là, bah, on s'est mis à vraiment publier de la fiction, et puis bah, le fait d'avoir Jean-Philippe Jaworski, ça nous a pas mal orienté sur la fantasy. Et puis de toute façon, le contexte faisait que ben, c'était la fantasy qui marchait à l'époque. Ça ne nous empêche pas d'être fan de science-fiction et de l'avoir toujours été. Mais voilà, c'est un petit peu plus orienté sur la... Parce que ce qu'on publie en science-fiction, comme chez tout le monde d'ailleurs, tendait à ne pas trop marcher. Voilà, donc on s'est orienté plutôt sur la fantasy. Et puis ben, évidemment, ben, on a publié d'autres auteurs. Il faut savoir que dans le temps, on publiait des auteurs français, et particulièrement en fantasy, ça aurait semblé complètement commercialement non viable.
Ouais, c'était compliqué.
Mais les éditions de Nemos, quand ils se sont créés, ont lancé un certain nombre d'auteurs français.
Mathieu Gaboury,
Fabrice Collin. Sans se poser la question. Et ils ont eu bien raison, parce qu'ils ont lancé plein de super auteurs, et ils ont lancé la fantasy de langue française, en fait.
Ouais.
Et donc, on leur doit beaucoup. Et les moutons électriques arrivaient un peu après, ben voilà, je trouve vachement plus intéressant de publier des auteurs francophones que traduire des anglos. Parce que traduire des anglos, vous achetez le bouquin, vous donnez au traducteur, le traducteur le traduit, on le publie. Youpi, voilà, 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 voilà. Il n'y a aucun boulot, quoi. Alors, il y a le boulot du traducteur qui est colossal, il y a le fait de relire la traduction qui est pas mal non plus. Mais c'est un boulot hyper statique, quoi. C'est pas créatif.
Oui.
Généralement pas avec l'auteur. Voilà, on n'a pas d'impulsion à donner. On a un choix, on l'achète et voilà.
Oui, voilà, il y a quand même le nez creux de se dire est-ce que tel auteur va fonctionner en
bien
France,
entendu.
Etc.
Bien sûr, non, mais c'est important. Mais c'est pas la création.
Tout à fait.
Et créer, c'est vachement passionnant. Voilà.
Et puis même, de toute façon, plus
avec les auteurs, parier sur des auteurs. Alors évidemment, il y a des fois on se plante. Il y a deux auteurs qui ne donnent pas ce qu'on espérait, qui, voilà, ça arrive hein, malheureusement, ou qui arrêtent d'écrire très vite. Par exemple, Or et Nuit de Mathieu Rivero a super bien marché, marche encore, et Mathieu est parti ailleurs. Voilà, il n'écrit plus, il est dans le jeu vidéo. Bon, mais tant mieux, hein, c'est, tant mieux pour lui, hein, c'est pas le souci. Mais voilà, c'est un exemple de pari qui n'a pas marché pour nous. En revanche, on a parié sur Stéphane Plateau, un auteur belge. Et là, le pari a marché, puisque c'est notre, en termes de chiffre de vente, c'est notre deuxième auteur. Voilà.
C'est la saga Manash, hein, qui mélange fantasy celtico-hindouiste.
C'est
excellent.
Par Manash, et qui s'appelle Les Sentiers des Astres.
Ouais.
Chez nous en grand format et chez j'ai lu en poche.
Et en plus, l'auteur est juste adorable. Enfin, je l'ai encore croisé à Troller Légendes il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un très bon conteur, en plus.
Voilà,
si vous avez envie, quand vous raconte des histoires, vous lui demandez. C'est extraordinaire. mais c'est vrai, alors pour rebondir là-dessus, pour la fantasy francophone, en tout cas, enfin, moi, je me souviens que je lisais beaucoup, beaucoup dans les années 80-90. Des auteurs français, en tout cas, qui en écrivaient, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup non plus, quoi. C'est vrai que les faire éclore, ouais, c'était... Comme tu dis, le boulot de Mnemos, ensuite chez vous, enfin chez les moutons. Bon, il y en a plein d'autres qui se sont engouffrés. Je pense d'ailleurs, par exemple, je vois un petit peu dans la liste, alors j'ai mis le lien hein, vers le site des moutons, mais j'ai aussi le lien pour ceux que ça intéresse vers la Noosphère, qui est le site, enfin pour moi, c'est le site de référence. Hein. Et là, vous aurez carrément le site de l'éditeur des moutons, vous avez toutes les collections avec tout ce qui n'est plus édité non plus. Et quand on va sur la bibliothèque Voltaïque, donc qui était la première collection, hein, c'est ça hein.
Oui, c'était notre collection principale jusqu'à présent. Ouais.
Bon, on voit du Terry Vinling, du Roland Wagner, forcément, James Patrick Kelly, du Auguste Derleth aussi d'ailleurs. Bon, Serge Lehmann, bon, ça c'est voilà. Cédric Ferrand avec Vasberg. Pour les rôlistes que nous sommes, ça peut parler, par exemple. Voilà, il y a du Xavier Mauméjean, forcément. Estelle Faye. Je le redis à nouveau. Léon Groc, ça c'est pas mal ça. Enfin, j'aime beaucoup Léon Groc. Ouais. Michel Jury.
C'est un vieil auteur de.
Exactement, ouais, début 20e, hein, je crois, si je dis pas de bêtises.
Ouais, ouais, tout à fait.
Du Timothy Ray, du Michel Pagel.
Ouais, j'allais dire Michel Pagel. Oui.
Ah ouais, bah alors je
Michel Pagel, c'est un des grands auteurs francophones.
Ah ouais, ouais. Fantastique, et... SF, fantasy, tout
voilà,
en fait. Hein.
C'est ça, qui couvre absolument tous les genres. Et en fait,
j'ai encore la vieille édition.
Et ben petit à petit, au Mouton électrique, on réédite tout Pagel. On va avoir la totale, presque à part deux titres, non, par trois titres, je pense qu'on va pas tardé à avoir tout pagé la date catalogue.
Bah, je vous montre l'édition de l'équipe des Paradoxes. Moi, je vous ai montré l'édition qui a eu le Ronnie Aimé à l'époque. Voilà, l'équilibre des Paradoxes. Et voilà ce que ça donne chez les Moutons. En édition révisée, bien sûr, en plus par l'auteur.
Bah, oui, bien sûr. Ah oui, il en profite, l'auteur, évidemment.
Oui.
Vu que tous les titres sont chez nous, il leur donne une...
Un petit toilettage. Ouais, ouais.
Pour les toiletter et en dernier, une version définitive.
Il est Director's Cut. Il y a Casino Perdu aussi. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, Michel Pagel, foncé, parce que je sais que vous avez aussi édité en deux gros volumes La Comédie Inhumaine.
Mm-hmm. Oui, son énorme cycle de
romans. Ah ouais, ouais, de fantastique.
Récemment, on vient de rééditer en édition de luxe.
Ouais, c'est Les Femmes Noires.
Qui est son. Qui est son. Hop là.
Celui-là.
Les Femmes de la Nuit, ben voilà, tu le mets en.
Oui. Ah ouais.
Ça, c'est donc une édition luxe. C'était une série en 4 tomes de fantasy. Mmh. Et c'est vraiment pionnier pour la fantasy française.
Ouais, clairement.
Là, il les a réécrits et ça forme un seul gros, gros volume. Et c'est. Alors, pour le coup, il les a plus que toilettés. Il les a vraiment fortement réécrits parce que ça fait partie de ses premiers romans. Voilà.
C'était au fleuve à l'époque, hein, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'était au fleuve noir autrefois. Ouais. Oui, c'est un auteur qui a débuté au fleuve noir.
Ouais, ouais, anticipation.
Comme, Roland Wagner, dont on publie pas mal de titres régulièrement.
Ouais. Les futurs mystères de Paris. Ouais. Il y avait aussi, alors ça par contre, pour le coup, je vous remercie les Moutons, parce que vous avez édité enfin en France l'intégrale de Tyrannaël.
Ah oui.
Ah, alors ça,
oui, ça c'est super, pas. Mais on ne peut pas les publier malheureusement volume par volume.
Ouais.
C'est une série de science-fiction par Elisabeth Bonnarbeau, qui est vraiment une des très grandes autrices
francophones
de science-fiction.
Et mais traduire celui-là Le Guin, pour ceux qui ne savent pas.
Elle même était traduite en américain, mais elle est en exclusivité chez un éditeur québécois. Parce qu'elle a...
À lire.
Et donc, il n'est pas possible de la. Enfin, il n'est pas facile de la publier en France, disons. Il y a des bouquins maintenant, les éditions Nemo sont publiées du gouvernement.
Oui, ils en ont eu deux.
Où on a eu l'autorisation par Alire, donc son éditeur québécois, de faire deux énormes pavés de Tyrannaël, qui est son cycle majeur.
C'est fabuleux.
Ça fait très très longtemps que j'avais envie de publier Tyrannaël. C'est vraiment de toute beauté.
Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait partie des chefs-d'œuvre de l'ASF française, tout simplement. Voilà.
Je suis bien d'accord.
En Planète Opéra, c'est...
Ah oui, non, c'est fort. Quand je l'avais lu l'origine, j'avais tellement adoré que j'avais ralenti ma lecture pour rester dans le cycle. J'avais carrément pas envie d'en sortir.
C'est...
Et plus lentement, je savourais. Bon, au bout d'un moment, on finit quand même. Enfin bon, il y a 6 tomes c'est vraiment toute beauté.
Ouais. Donc alors, je m'amuse un petit peu à regarder un petit peu tout ce qui a été édité donc, chez les Moutons. Donc il y avait aussi Sovok, toujours Cédric Ferrand.
Mm-hmm. Voilà.
Et c'est ce qu'on dit régulièrement. Hein. Il y a beaucoup de rôlistes qui se sont convertis dans l'écriture. Donc, Dominique Douet, tiens, aussi. Sarah Doc, Nathalie Do, Laurent Kessy, Christian Léaurier. Enfin, des petits noms pas trop connus, quoi.
De nos jours, nos auteurs...
À l'époque, ils n'étaient pas très connus. Maintenant,
ce qu'on pousse, vraiment, à part Michel Pagel, justement, c'est Nicolas Texier.
Ouais,
un auteur qui, étonnamment, vient de la NRF. Il a publié 3 bouquins chez Gallimard, avant son Canaillé en littérature imaginaire. Donc ça, c'est un des auteurs qu'on porte avec vraiment fierté, parce que c'est vraiment une sacrée plume. Il y a également Alex Nikolavitch,
qui est un auteur,
prochain, en l'occurrence, d'ailleurs, les deux prochains. Le prochain Texier et le prochain Nikolavitch, qui paraissent respectivement en août et en septembre, c'est vraiment...
Comme
l'autre, c'est des très, très grands romans.
Ouais. De et Alex, puis, j'ai celui-là aussi.
Ouais, très, très bon. Ça c'est le premier de sa trilogie arthurienne.
Ouais, après c'est Lancelot. Ouais.
Voilà, il a fait un Lancelot, il est en train de préparer un Perceval, qui sera le troisième et dernier volet. C'est une trilogie thématique, c'est-à-dire que les romans ne se suivent pas, mais chaque roman suit un des personnages emblématiques. Donc Uther dans le premier, Lancelot dans le deuxième et Perceval dans le troisième. Et puis dans les auteurs qu'on pousse beaucoup, il y a Nelly Shadour et Christine Luce.
Oui.
Christine Luce, dont on vient de publier Imago, qui est waouh! Fantaisie post-apo, assez folle et de
Non,
très,
voilà.
très, très magique, très poétique. C'est vraiment un très, très, très grand roman. Il en a été question sur France Culture la semaine dernière. Et on en fait une dithyrambe. Et puis Nelly Shadour, dont on réédite, parce qu'il a été vite épuisé, on réédite en fin d'année avant 7 jours, qui est un
Ouais.
gros horreur. Et
Ouais, je
puis,
vous
on
aviez
travaille sur
dit.
la suite d'Ante Voltige, qui est aussi de l'horreur.
Ouais. Vous aviez édité aussi du Lisa Goldstein, je trouve qu'il est trop
Voilà.
méconnu en France. C'est une autrice de
Alors,
grand, vraiment.
je vais apprendre quelque chose, c'est qu'il ne faut pas dire Lisa Goldstein, mais il paraît qu'il
Ah.
faut dire Lisa Goldstein.
D'accord,
Si elle
ok,
est
ça.
américaine. Nous, on disait Lisa Goldstein, hein, bien entendu. Hein.
Bah ouais,
Et puis, un
je.
jour, j'ai été interviewé par Hélène Kushner en tant qu'invité à la Worldcon de Fantasy à Montréal. Et donc, je parle de Lisa Goldstein, et puis elle me regarde. Hein? What? Oh non! Lisa Goldstein! C'est comme ça que les Américains prononcent. Voilà.
Bon, ben comme ça au moins ce
C'est une super
soir.
autrice contemporaine de fantasy de réalisme magique, effectivement. On en a publié trois. Et ça ne s'est pas vendu.
Ouais, mais je crois qu'il
J'aimerais en
le
publier trois autres,
premier.
mais ce n'est pas gagné qu'on y arrive un jour. Voilà.
Ouais, parce que le premier, si je dis pas de bêtises, c'était chez Rivage Fantasy, donc ça remonte. Et c'est pareil, je crois que ça avait fait un four aussi, alors que c'est juste. C'est
Ah non,
magnifique,
c'est
quoi.
vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment un auteur majeur.
Ah ouais.
Mais ben, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne marche pas en France pour Madame Goldstein. Donc, j'espère dans quelques années, on pourra recommencer. Parce que notamment, son plus récent, elle était pas mal d'années sans écrire, et son plus récent a eu le prix Mythopoeic. Et il faut savoir que le Mythopoeic, c'est un prix anglais qui est un petit peu, c'est un petit peu le Nobel de la fantaisie au niveau grande classe. Et
D'accord.
celui-là, j'aimerais bien qu'on le publie, voilà. Mais c'est pas encore gagné, voilà.
On se fera peut-être un de ces jours une émission spéciale Lisa Goldstein. J'en
Effectivement.
ai deux, trois à la maison. Donc.
Ah
Alors, ça,
bon?
c'est.
Ah,
Ouais,
mais c'est
quelques-uns,
moi
ouais.
qui les ai achetés, ça y est, j'ai
C'était
trouvé.
moi. Les trois exemplaires, ils sont là. Moi, il y a aussi une autre partie du travail des moutons que j'apprécie énormément, en dehors des auteurs, des romans, recueils de nouvelles. C'est tout ce travail éditorial. Par exemple, là, j'ai Forêt, donc le petit format carré en plus. On a aussi Super Héros, qui était sorti il y a un an, ouais, il y a un an et demi à peu près, c'est ça. J'ai l'édition Ulule de Celt,
Le Celte.
ouais, qui avait été dirigé par Sarah Dock, hein, si je dis pas de
Ouais,
bêtises.
c'est un paradoxe, ouais.
Voilà, donc tout ce travail-là.
Ouais, c'est important chez nous aussi,
Ouais.
ouais. Ce travail sur les beaux livres. Ça
Parce
s'appelle la
que.
Bibliothèque des miroirs.
Ouais.
Et c'est du beau livre sur globalement la culture geek, on va dire. La culture pop, la culture geek et tout l'imaginaire. Donc, par exemple, le premier que tu as montré, la forêt, c'est sur l'imaginaire des forêts, disons du petit poussé jusqu'à Twin Peaks, quoi, grosso modo,
En
en
passant
passant
par Robert Holstock.
aux grosses liandes.
Ouais.
Et chaque volume est comme ça. Il y a un volume sur l'imaginaire du Japon,
Ah oh, oui, il est
il y
fabuleux.
a sur les Vikings, sur l'histoire de la science-fiction, sur les sorcières. Et
Les
là, en fin d'année,
Vikings.
on en sort un sur l'imaginaire de Mars.
Ok.
Qu'est-ce que j'oublie?
Science-fiction, le voyage dans la modernité, avec Serge Lehmann.
Ouais, mais ça, on l'a publié l'an
Ah.
dernier.
Ah ouais, c'est magnifique.
Cette année, donc on publie Mars, on publie Sherlock Holmes. Et je sais que je suis en train de lamentablement en oublier un. Hein.
Petite mauvaise manip, à mon avis. Bon,
Ne vous inquiétez pas.
déjà, moi, à mon niveau, c'est bon au niveau de la connexion et
Ton
tout.
image, ton son est nickel, impeccable. Ah, il est de retour.
Et ma connexion a
Voilà.
sauté là, de toute évidence, je suis désolé.
Voilà. Non, non, c'est tout
Pas de
bon.
problème.
Donc, oui, donc la Bibliothèque des miroirs,
Alors, il y avait le Arsène Lupin, Forêt, il y avait Pulp.
Il y avait ouais, Pulp, on a fait Pulp, effectivement.
Mythe et super-héros par Alex Nikolavitch.
Ouais.
On avait le Conan par Simon Sanahuejas.
On a fait Paranormal.
Ouais, les sorcières.
Et puis, on en a fait sur... sur des créateurs de mangas, parce qu'on a fait Miyazaki et Oshii.
Ouais, ouais Mamoru Oshii, ouais.
Voilà, voilà. Et là, fin dernier, on va en publier deux en même temps sur Shonen et sur Shoujo.
Ah.
Les deux grands...
Sur la culture des mangas.
Les deux grands genres du manga.
Ouais, pour les jeunes, les jeunes garçons et les jeunes filles. Ouais.
Voilà, c'est ça.
Et Viking, si je ne dis pas de bêtises, c'est Laurent Di Filippo hein, qui avait...
Ouais, c'est ça, ouais.
C'est presque un voisin, en fait.
D'accord.
il est prof à Metz, j'habite juste à côté.
D'accord. Okay.
Voilà. Moi, je l'avais croisé aux Utopiales, justement.
Les moutons électriques sont en partie à Metz, on est basé à Bordeaux.
Ouais.
Mais mon adjoint Meredith Debac, quant à lui, est resté vivre à Metz.
D'accord. Bon, bah, c'est un voisin, donc.
Voilà.
Je vois qu'il y en a un sur Les Apocalypses par Alex Nikolavitch. Il est partout, ce garçon, hein, quand même. Hein.
Oui, bah, c'est un auteur... c'est un bouquin qu'on adore, Apocalypse, bon, qui n'est plus disponible, mais que justement, le week-end dernier, on discutait avec lui de la possibilité de le refaire dans notre version carré couleur.
Oui,
En fait, c'est un bouquin que j'avais adoré, Apocalypse. Et puis, Alex nous a fait plusieurs essais comme ça. Et puis un jour, je lui dis, mais attends, mais t'es scénariste de BD, tu voudrais pas écrire du... Puis t'écris des nouvelles, tu voudrais pas écrire du roman. Et depuis, c'est pour nous. Voilà.
Ah ouais, ouais, et puis, enfin, alors, moi, je suis en plein dans les canaux du mi-temps. Ça mélange un peu les... en fait, toute la thématique Venise avec les canaux, les gondoles, etc., enfin, les barques, les doges, tout ce qui s'ensuit, et les Indiens américains.
Ouais,
avec un peu de Lovecraft dedans.
C'est ça.
Ouais. Il n'est jamais loin, lui.
Ouais. C'est tout à fait ça. C'est étonnant. Et son prochain, Les Exilés de la Plaine, pareil, un mélange d'étonnant, de conquistador, de magie. C'est vraiment... Il a un imaginaire que je trouve fascinant. Hein.
Bah non, normalement, si tout va bien, il faut que je le recontacte. On devrait l'avoir au mois de mai. Hein, parce qu'on peut cuisiner sur d'autres trucs.
D'accord.
Puis là, il a sorti un autre bouquin chez Léa, d'ailleurs, avec Camille Salomon. Donc voilà, donc pas mal de choses avec ce jeune homme qui traduit beaucoup de comics, effectivement.
Oui.
Il y a une autre collection. Alors pareil, celle-là, on n'en parle pas des masses, mais alors, moi, c'est un gros coup de cœur. C'est les artbooks féeriques. C'est 15 euros le petit machin, là.
Voilà, c'est 15 euros des petits bouquins d'art.
Ah ouais.
Malheureusement, ça n'a pas marché parce qu'en fait, c'est pas assez cher. Et donc, en librairie, ça prend trop de place pour un trop petit prix.
D'accord.
Donc, en fait, ça n'a pas été. Voilà. Donc, on est très contents, c'est une très belle collection. Vraiment, je trouve. Mais ça n'a pas rencontré son public finalement. C'est un comble de devoir dire que ce n'est pas assez cher, mais c'est un constat.
C'est bizarre. Parce que c'est. Fin 19e.
Si vous êtes libraire, il faut bien que vous rentabilisiez vos mètres carrés. Hein, vous payez un loyer. Hein, les loyers sont chers. Et donc, des petits bouquins pas chers qui prennent la place sur la table, c'est pas facile en fait.
Non.
Je vous montre un petit peu, voilà un peu ce que ça donne. Quoi.
Mm-hmm.
Donc c'est fin 19e, début 20e, surtout fin 19e. Il y en avait un sur les chats, hein, pour ceux qui
cherchent
un truc à offrir ou se faire offrir.
On l'a fait sur trois grands peintres, Rackham, Dulac et Robinson. Ouais. Et puis après, on a fait des volumes thématiques sur les chats. Il y a un volume sur des
monstres. Moi, j'avais les monstres et le merveilleux scientifique. Ah, parce que ça fait Jules Verne, donc forcément.
Voilà.
C'est vrai que ça, c'est une collection, donc ça, elle s'est arrêtée pour l'instant, c'est ça?
Oui, c'est arrêté. Ouais. Elle est toujours dispo, hein, mais on n'en fera pas d'autres. En tout cas, pas dans ce format-là. Il faudra qu'on la réinvente un peu plus grande un jour.
Ouais.
Mais ce n'est pas exclu. Puis, notre autre collection, là, sur laquelle on travaille beaucoup, c'est la Bibliothèque dessinée. C'est du moyen format, cartonné, doron, et ça ressemble à de la BD, mais c'est pas de la BD, c'est du roman graphique, littéralement du roman graphique.
D'accord.
À savoir que c'est du roman où les illustrations sont intégrées
D'accord.
dans la narration.
D'accord.
Et bon, c'est pas facile à montrer.
Non, mais je vois. Ça avait été fait sur 1984.
Un peu, aussi. Désolé. Mais voilà, c'est et ça, c'est une collection qui nous tient très, très, très à cœur. Celui-là a très bien marché. Il est par Nicolas Texier. À chaque fois, en fait, le principe, c'est d'avoir un écrivain et un illustrateur ou une BDaste. Donc ça, c'est Nicolas Texier avec notre directeur artistique.
Mercuras Caride.
Et celui-ci, c'est un texte de Jaworski, de Jean-Philippe Jaworski, illustré par la BDaste Laureline Mathiusi. Et il y a beaucoup d'autres volumes.
Là, je vois 5.
Il y avait eu d'autres volumes plus en petit format qui étaient parus auparavant. Et il y a beaucoup d'autres volumes qui sont en préparation avec plein d'auteurs. Par exemple, il y a deux week-ends de cela, on a convaincu un dessinateur de BD que j'adore. On n'a pas encore signé, alors on ne va pas dire son nom, mais
d'accord.
Je suis content. Voilà, parce que c'est vraiment quelqu'un très classe. Donc je suis très très heureux qu'il soit laissé convaincre. Et puis on a une bonne dizaine de projets écrivains et dessinateurs ensemble.
C'est plutôt roman ou plutôt novella du coup? Parce que j'ai vu que c'est ça avait été les deux.
Ouais, c'est la novella. Ah. Oui, c'est du roman court.
Ouais.
Très très largement, il y a une illustration toutes les deux pages grosso modo. Et l'idée c'est que autant que possible l'illustration participe à la narration et vraiment se fond dans le texte et participe vraiment à la lecture. Si vous retirez, l'idée, c'est que si vous retirez les dessins, il va vous manquer une partie de l'histoire, quoi, grosso modo. Là, par exemple, il y en a un qui est en cours de finition, qu'on publie fin août, c'est un texte inédit de Timothée Ray. Et illustré par Patrick Lard, mais là ils en sont à la partie où en fait il faut couper dans le texte pour laisser la place à des séquences de type BD ou illustration. Voilà, c'est un gros boulot de collaboration entre l'auteur et l'illustrateur.
Ouais, puis je vois en plus, il y a du Sabrina Calvo, du Michel Jury, du Jaworski, du Texier. Donc, et Michel Jury, ouais, c'est vrai qu'il s'était remis à écrire pas mal hein, ces derniers temps, hein, après un petit passage à vide, on va dire.
Oui, oui, bah, c'était un auteur que j'aime beaucoup. De temps en temps, j'essaie de rééditer un Michel Jury.
Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, parmi ceux qui nous écoutent, Michel Jury, on va dire que c'était l'écrivain le plus Philippe K. Dick de France.
C'était dans les années 70.
70, ouais.
C'était le grand écrivain français de science-fiction.
Ah ouais. Chez Ailleurs et Demain, avec les couvertures qui brillent bien, là, les métalliques.
Voilà, papier chocolat. Ouais. Et donc, c'est une des dimensions des moutons électriques, c'est qu'on aime bien être fidèle à des auteurs. Et tout le fait qu'on publie régulièrement du Roland Wagner, qui est mort il y a 11 ans, qu'on publie de temps en temps à Michel Pagel. En attendant qu'il nous fasse un inédit. Il y aura un inédit un jour. Mais presque tous les ans, on publie un Pagel. De temps à autre, on ressort un Michel Jury, ainsi de suite. Il y a aussi le côté un peu plus un peu patrimoine. Quoi.
Ouais. Alors, il y a un titre qui est sorti cette année. Je vais en profiter. Que je trouve, voilà, parce qu'on a fait une thématique hein, sur les dystopies il y a pas longtemps, donc j'en avais parlé. Je vous le montre dès que je retrouve sa petite couverture. Où es-tu, mon petit? Voilà, Karen Boy, Kalokaïn.
C'est très bien que tu en parles parce que j'avais cette collection. À savoir que je disais que la science-fiction ça se voit à nouveau,
voilà.
Et donc on profite pour revenir en science-fiction de plus belle, à savoir qu'on a créé une collection de science-fiction. Il y a déjà 5 titres qui s'appellent La Bibliothèque des Vertiges et dans cette Bibliothèque des Vertiges notamment on a repris notre traduction de Kalokaïn. C'est une très grosse vente chez nous, mais on l'avait en poche jusqu'à présent, donc, un grand format et le traducteur a encore revu sa traduction. Kallocaine, c'est un roman suédois, c'est une dystopie, ouais. Date de 1940. Elle est passée inaperçue en France, en fait, dans beaucoup de pays, ouais. En tout cas les pays scandinaves et les pays anglo-saxons. C'est un classique, voilà, ouais. Un classique indubitable et indémodable, mais qui est connu, quoi. Et en France, y avait eu une traduction dans les années 50, traduction médiocre, ouais. Coupée, qui était tombée dans l'escarcelle d'un tout petit éditeur, qui l'a continuellement réédité. Mais voilà, le bouquin était complètement passé inaperçu, et puis la traduction était mauvaise, quoi. Et puis un jour, j'ai repris contact avec un vieux camarade d'études, un traducteur, et je lui dis donc, t'as vu que Kallocaine, c'est dans le domaine public, t'es toujours passionné par Kallocaine, parce que quand on était jeune, j'avais connu Kallocaine par ce garçon, il avait une passion pour ce roman. Sa passion, il l'a tellement entretenu, cet animal, qu'il a appris le suédois pour lire Kallocaine. C'est fou. Et quand j'ai repris contact avec lui, il m'a dit oui, je te fais une traduction de l'intégrale de Kallocaine.
Directement du suédois.
Du suédois, bien entendu. Et donc, d'où le fait qu'on ait une traduction, enfin une traduction correcte et intégrale de Kallocaine. Ouais. Et puis, on a été bien récompensé puisque, ma foi, c'est un bouquin qui marche. C'est un des bouquins qui marche le mieux chez nous.
Ouais. Bon, on s'est rendu compte quand on a fait notre thématique dystopie, donc on a fait littéraire, jeu de rôle, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, c'est que ça a précédé 1984. Clairement, Orwell l'a lu, hein. Il n'y a pas de photo.
Ah oui, mais ça, Orwell s'en cache pas, c'est pas le souci. Ah, ouais. Le symbole de l'œil dans 84 vient de Kallocaine.
Ouais.
Donc, alors c'est pas du tout que 84 soit pompé sur Kallocaine. Hein.
Non, pas du tout.
Mais clairement, oui, bien sûr, Orwell avait lu Kallocaine. C'est pas pour rien, c'est un classique. C'est un classique au même titre que 1984.
Ouais, mais c'est vrai qu'après le courant dystopique en ce moment il se vend bien aussi parce que la période le veut, j'allais dire quelque part.
Je pense. Oui, tout à fait. Voilà, bon. C'était le bon moment pour sortir Kallocaine, de toute évidence, d'où la nécessité de le garder dans notre catalogue et de le faire voir encore plus, et d'où ce nouveau grand format dans notre collection de science-fiction.
Ouais, alors je vais les montrer au fur et à mesure, mais il y en avait un autre dont je voulais parler, qui n'est pas dans la bibliothèque des Vertiges, parce que là, pareil, hein, c'est d'avoir réédité ça, moi je vous dis merci, c'est cette petite chose.
Il ira dans la bibliothèque des Vertiges.
Ah ouais.
Figure-toi que c'est le même traducteur que le Kallocaine.
Ah ouais, je ne suis pas étonné.
Il m'a proposé de faire ce bouquin-là, et oui, évidemment. J'ai dit oui. On n'avait pas encore créé la bibliothèque des Vertiges, mais c'est le même esprit. Et dans quelques années, quand il sera épuisé, on prévoit bien, si tout va bien et que la bibliothèque des Vertiges fonctionne, on le rééditera en bibliothèque des Vertiges.
Ouais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas,
c'est vraiment un grand classique anglais de la science-fiction.
Exactement, on va dire années 20, je crois, hein, de mémoire.
Ouais,
années 20, années 30.
Je crois que c'est années 30. Et,
années 30,
ouais. Et c'est très dans le futur. On a des citations d'auteurs super célèbres sur ce bouquin, c'est assez fou, quoi, parce que c'est réellement un bouquin culte pour les écrivains britanniques de science-fiction.
Ouais, et puis les derniers hommes à Londres, les premiers, ça c'était les vieux titres de... C'était encore la couverture blanche des De Noël, Présence du Futur. Donc, ça remonte un peu. mais ouais, ça méritait des republications de ce genre de classique, quoi. Comme je sais, Xavier Dolo a réimprimé les Richard Cooper, qui est aussi des classiques britanniques.
Ouais. Ah, ça je les aurais bien fait.
Ouais. André Norton, c'est classique.
Bien d'avoir fait Richard Cooper chez Argyle. Le cycle de
la fraternité de l'oiseau blanc.
La fraternité de l'oiseau blanc, c'est de toute beauté. Hein.
Ouais, c'est une merveille. Et mais là, chez Nemo, c'est
évident de publier des bouquins.
Ouais.
En l'occurrence, de trouver l'argent. Et donc, Argyle a réussi à trouver l'argent. On bataillait avec l'argent. On réussit à obtenir les droits de publier le bouquin, mais ils ne feront pas d'autres copains parce que l'agent est super chiant.
D'accord.
Malheureusement, la publication d'œuvres est liée aussi, il faut le dire, à ce genre de
façon. Ouais.
C'est pas forcément évident. Bon, pour Kallocaine et Créateur d'étoiles, ils sont dans le domaine public, donc on n'a pas besoin de se batailler avec des héritiers. Mais pour Cooper, par exemple, malheureusement, s'il n'était plus disponible, c'est parce que il n'est pas facile d'avoir les droits. Voilà.
Et là, par exemple, dans les auteurs classiques aussi, on a du André Norton qui enfin a republié en France chez Mnemos, là. Donc, qui fait partie des grands, grands classiques de la fantasy américaine, quoi. Une autrice super connue, sauf chez nous.
Bah oui.
Très, très peu, quoi.
Oui, bah oui. Bah, c'est les hasards de l'édition. Où est-ce que Norton a été pas publié alors que d'autres auteurs ont été publiés?
Oui.
C'est mystérieux, hein. Poole Anderson n'a pas été très, très bien publié en France. Il reste encore des tomes d'inédits. Hein. Voilà, c'est un peu les hasards des goûts des éditeurs, après tout. Hein. Et en France, la science-fiction était publiée par une petite poignée de personnes qui ont fait un boulot fabuleux, hein, c'est pas le souci. Hein. Michel Demuth ou Gérard Klein ont fait des boulots fabuleux. Hein.
Jacques Guamard. Enfin,
mais ils ne pouvaient pas tout publier non plus. Donc forcément, il y a des choses... qui tombe.
Sur le radar.
Et puis, en Bibliothèque des Vertiges, tiens, ça me fait une transition. On a réédité notre traduction de Lisière du Pacifique de Kim Stanley Robinson. Et ma foi, je suis super content d'avoir Robinson.
Voilà.
C'est une utopie californienne de toute beauté. C'est une sorte de polar dans une utopie. Et c'était jamais paru en France. Et pourquoi c'était pas paru? Parce qu'en fait, il a été censuré en France. Les deux éditeurs de Robinson, à l'époque, étaient des hommes de droite et ils ont détesté ce bouquin. Alors, quand on lit de nos jours, Lisière du Pacifique, c'est un très beau roman.
Ouais.
Mais il n'est pas choquant dans son contenu, entre guillemets, politique.
Ouais, mais Robinson est classé.
Écologiste. Enfin, écologiste de nos jours, c'est pas franchement révolutionnaire. Et à l'époque où il est paru, les éditeurs français l'ont refusé avec horreur parce qu'ils ont trouvé choquant le propos ouvertement écolo de ce roman. Hyper séduisant.
C'était chez J'ai lu à l'époque, hein, en plus.
C'était les éditeurs, c'était De Noël et J'ai lu, oui. L'ont refusé tous les deux. Voilà. Ouais. Et moi, depuis tout ce temps-là, je me disais chic. Tout le monde l'a oublié, celui-là. Je vais bien, je vais peut-être pouvoir le publier. Et oui, j'ai réussi à
publier. C'est la trilogie Orange County, je crois. Il me semble, comme ça.
Ouais. Mais c'était une trilogie purement thématique. Hein.
Oui, tout à fait.
Donc, ils ont publié les deux autres de ces trilogies thématiques, dont un qui n'a pas très bien vieilli, d'ailleurs. Le cyberpunk n'a pas très, très bien vieilli, je trouve. Par contre, l'autre volume est toujours très, très, très beau. Le Rivage oublié et la Côte Dorée.
Ouais, c'est la Côte Dorée, ouais.
Le Rivage oublié est toujours c'est vraiment un très très bon roman. Mais celui-ci, donc Pacific Edge, Lisière du Pacifique, n'était pas paru, voilà. C'est les hasards de l'édition. Puis ma foi, des fois, on rattrape derrière. Ouais, là, on va bientôt publier. Rite de passage de Alexis Panshin. T'as trouvé la couverture, bravo.
Et oui.
Ça, c'est un bouquin que j'adore, qui était paru. Alors, c'est un prix Nebula 1968, nominé au prix Hugo 1969. Donc, pas franchement un mauvais roman, on va dire. Hein.
À l'époque, ça
paru en France, chez Ota. La traduction n'était pas mauvaise, mais pas terrible non plus. Et puis surtout, il est passé inaperçu quoi, en France.
Ouais, c'était les Opta, les Galaxy Bis.
C'était un choix de Michel Demuth, qui était vraiment un excellent éditeur. Mais bon, tous les bouquins, il y a des bouquins qui passent inaperçus, quoi. C'est tout. Hein.
Mais Panchi, ouais,
celui-ci, moi, c'est un bouquin que j'adore depuis très, 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 très longtemps. Donc là, on l'a fait retraduire et donc on le publie incessamment. En Bibliothèque des Vertiges, c'est un roman d'apprentissage à bord d'une arche stellaire, c'est-à-dire un vaisseau monde qui transporte des pionniers pendant des générations et des générations.
Ouais, les vaisseaux générationnels.
Et dans ce vaisseau générationnel, qui a bien entendu été dépassé par des vaisseaux qui vont plus vite depuis, sur la technologie. C'est une autre des thématiques des vaisseaux générationnels. Et dans ce vaisseau générationnel va se poser la question à la fois du rite de passage à l'âge adulte des ados, Et donc, c'est raconté par une ado qui va pas tarder à passer le rite de passage de ces sociétés. Et cette société entière va se trouver bientôt à son propre rite de passage, car elle arrive à la planète. Et il va falloir qu'elle décide, est-ce qu'ils descendent sur la planète ou est-ce qu'ils restent dans leur vaisseau ? Sachant que la planète, entre-temps, est déjà colonisée, qui plus est. Donc, elle a déjà développé sa propre civilisation. C'est un roman à la fois très personnel, parce que c'est raconté, c'est un journal par la gamine, c'est hyper humain, c'est la vie quotidienne, alors que c'est la vie quotidienne d'une société complètement différente. Je dirais pas que c'est feel good, parce qu'il s'y passe des trucs très durs, et en même temps, c'est super beau, c'est super humain, c'est vraiment... quand on lit de nos jours de la science-fiction un peu positive, puisque maintenant il y a un renouveau d'une science-fiction positive.
Oui, Becky Chambers, on pense à elle, par exemple.
Becky Chambers, on pense forcément à elle. Eh bien, rite de passage, c'est du Becky Chambers dans le temps. Quoi. Voilà. Et ça, c'est le genre de choses que j'ai envie, parce que la Bibliothèque du Vertige, c'est ma collection à moi, je précise.
D'accord.
Électrique, je co-dirige. Avec mes deux adjoints, Melchior et Meredith. Mais j'avoue que le Vertige, c'est grandement, alors c'est pas sur tous les titres quand même, le titre indien, c'est mon adjoint Meredith qui l'a sélectionné. Je crois que c'est quand même le titre indien en question, qui est une dystopie qui se passe de nos jours, dans le futur proche en Inde. C'est super beau, hein, vraiment. Du coup, celui-là, je l'avais pas lu avant parution, puisque c'était pas moi qui l'avais sélectionné, et c'est waouh. Mais grosso modo, la plupart des titres de la Vertige, c'est vraiment des choix très personnels à moi. Et Rite de passage fait partie de mes coups de cœur de longue date que j'avais envie de rééditer un jour.
Alors, est-ce que dans les coups de cœur, il n'y aurait pas le seul prix Hugo qui a jamais été traduit en France ? C'est Michael Bishop, No Enemy But Time. je désespère de l'avoir traduit un jour.
Ne désespère pas. Nous allons le faire un jour.
Mais ouais, non, mais je l'ai. Mais je comprends toujours pas pourquoi il a jamais été traduit depuis.
Bah, ça fait partie des auteurs qui n'ont pas été choisis par les éditeurs français.
Ouais, Michael Bishop.
Ça, encore une fois, c'est un grand écrivain, Michael Bishop, et il est passé à la trappe en France. Bon, ben, rassurez-vous, on a déjà publié un Michael Bishop, La Montagne Unicorne, et on va en publier d'autres. Et Mnemos va en publier d'autres aussi, on s'est entendu avec eux. Donc on va s'y mettre à deux pour faire du Michael Bishop dans ces prochaines années.
J'avais un petit peu glissé quelques mots à Frédéric Veil, il faut bien le dire aussi.
Voilà. Écoute, Mnemos, donc Frédéric Veil, va faire, si l'agent nous laisse faire, bien entendu, mais il n'y a pas de raison.
Oui.
Il veut faire Eyes of Fire, parce que il faut savoir que Michael Bishop, en plus, il réécrit ses bouquins ces temps-ci.
D'accord.
Pas tous, il en réécrit certains. Et La Montagne aux Licornes qu'on a traduit au mouton, c'est la version complète récente. Et Nemos va traduire la troisième version d'Eyes of Fire, qui avait été traduite autrefois sous le nom du Bassin des Cœurs Indigo. Donc les Cœurs Indigo vont avoir une nouvelle version, mais dans le texte définitif. Et au mouton, on veut publier. Si Dieu et l'agent nous prêtent vie, on a bien l'intention de publier. Les autres Michael Bishop, si on nous laisse faire, voilà.
Ouais, c'est que c'est un très grand écrivain.
C'est vraiment un auteur majeur, passionnant. Donc faut absolument qu'on continue à le publier, puisque de toute façon les autres n'en veulent pas. Voilà. Enfin, il y en a deux chez Folio quand même. Mais c'était tout. Donc on va essayer, si c'est possible, on va essayer de continuer Michael Bishop.
Ok. Du coup, c'est quoi le planning pour 2023 pour les moutons électriques ? Est-ce qu'il y a des choses, des petites perles en approche ?
Bah, écoute, en approche, il y a un nouveau Stéphane Plateau.
Ouais, celui-là.
Le voilà. qui paraît incessamment sous peu, je ne sais plus la date, mais ça va être la semaine prochaine, je pense. Ouais. Alors, c'est dans la série, c'est dans la saga des Sentiers des As, mais ce n'est pas la suite. Okay. Car l'auteur est encore en train d'écrire la suite. C'est une sorte de prologue.
D'accord.
Une sorte de porte d'entrée dans le cycle, et c'est une forme de prologue. Constitué par un roman inédit. Donc, dans Les Embrasés, il y a une courte nouvelle, une novella et un vrai roman inédit. Voilà. Okay. Et le tout sur le rôle de la magie dans cet univers. Voilà. C'est une envie qu'on avait d'avoir une vraie porte d'entrée dans le cycle, parce que ça fait un bon moment que les Sentiers des As paraissent. Et vendre une série, c'est pas forcément facile. Donc de temps en temps, il faut relancer l'intérêt pour une série, en fait. Et il nous a semblé que Les Embrasés, cette porte d'entrée, ce prologue, pouvait peut-être offrir aux libraires et aux lecteurs nouveaux une porte d'entrée pour découvrir Stéphane Plateau.
Ah, si vous voulez un univers qui se prête particulièrement au jeu de rôle, c'est l'univers du Sentier des Astres.
Hein. Ça, c'est sûr.
Fabuleux.
C'est sûr. Et puis, pas qu'au jeu de rôle, y a une envie de faire une série télé. Enfin, c'est pas que ça va se faire, hein, c'est juste qu'on a signé l'option.
Ouais.
Ok.
Voilà. On a signé deux options pour les œuvres de Jaworski et une pour Stéphane Plateau. Et il y a l'intérêt pour Michel Pagel. Donc ça, c'est nouveau. Ça ne veut pas dire que ça se fera.
Ouais.
Parce que sur 10 projets signés par la télé, je ne sais pas combien, s'ils sont faits un ou deux, c'est déjà le bout du monde. Mais il y a un vrai intérêt. Parce que les producteurs se pressent au portillon. Et si les deux options pour Jaworski sont abandonnées, c'est-à-dire si les projets ne se font pas, il y a deux autres producteurs derrière qui veulent les racheter. Donc, si ça ne se fait pas là maintenant, et ben ça se fera la prochaine fois ou la fois suivante. C'est-à-dire que ça, c'est une nouvelle donne pour l'imaginaire en France. C'est jamais fait. Et j'imagine que d'autres éditeurs ont dû vendre des options, hein, même si personne ne le dit. Mais il y a un vrai intérêt de plein de producteurs français pour faire de la série télé de fantasy. Et donc, un jour ou l'autre, il va y en avoir une. Voilà.
Oui, ça devrait arriver. Ouais. Il y avait quoi ? Je sais qu'aussi, c'était Pierre Pével qui avait... Normalement, il devait y avoir une adaptation. Normalement... des Lames du Cardinal, normalement pareil en série télé, encore une fois, normal.
Voilà. Bon, ça Pével, c'était évident qu'il devait y avoir des options. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des options sur d'autres que Pével, oui. Plateau et Jaworski. C'est les trois plus grosses francophones, hein, de toute façon. Oui. Mais quand on voit qu'on nous démarche aussi sur Michel Pagel, par exemple, il y a vraiment l'intérêt, quoi. Oui. Sur.
Dernièrement, on a vu avec le studio Canal en SF. Hein. Alors, c'était pas des séries avec des prétentions d'effets spéciaux dans tous les sens, mais Infinity, moi j'y pense parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette série. Et c'était super, super intéressant. Quoi.
Ça bouge. Ça bouge aussi au niveau de l'audiovisuel. Et donc.
Tant mieux.
Donc, il va y avoir des séries un jour. Voilà. Quand? Je ne sais pas. Mais c'est évident qu'on va avoir des séries un jour. Et tout ça pour revenir à Stéphane Plateau. Voilà, Le Sentier des As, c'est vraiment une série remarquable et remarquée maintenant. Pour le moment, qu'est-ce qu'on publie d'autre ? Ben, ma foi. Fin août, on publie le nouveau Alex Nikolaevitch.
Ouais.
Et puis là, au mois de juin. Et au mois de janvier, on va publier les tomes 2 et 3 du Chevalier aux épines.
Ah, j'ai le tome 2.
Tellement montré. Voilà. Le tome 1 est paru en janvier.
Et le tome 1, c'est celui que j'avais.
Absolument. Donc, ça, c'est le grand événement chez nous, évidemment, parce que c'est Jean-Philippe Jaworski, le best-seller de la fantasy en France. Et c'est un événement parce que. Bon, alors, Gilles nous avait annoncé un nouveau bouquin, donc Le Chevalier aux épines, donc ça, c'était génial. Puis après, il m'a appelé en me disant...
Ça a un peu débordé.
Un peu débordé, ça sera en deux tomes. Hein. Ok, Jean-Philippe, pas de problème, on va le publiera en janvier et juin. André, le début du tome 2, bah, en fait, il est long comme un roman, donc en fait, il y aura trois tomes. Bon, d'accord, Jean-Philippe. Voilà. Donc, on a un tome 1 en janvier, un tome 2 en juin. Et il part chez l'imprimeur demain. Et un tome 3 qu'il est en train de finir d'écrire et qui sera en janvier. Voilà. Et la grande nouvelle, c'est que c'est dans l'univers de Gagner la guerre, dans le royaume. Parce que, en fait, Jean-Philippe, depuis quelques années, se consacrait à sa série celtique, Roi du Monde.
Oui.
Et qu'à l'origine, il pensait qu'il pourrait écrire Roi du Monde en parallèle avec des incursions dans le vieux royaume. Puis en fait, pas du tout, parce que Roi du Monde, ça lui demande un temps fou en documentation et en écriture. Mmh. C'est très exigeant de rédiger une série quasi historique comme Roi du Monde. Parce que c'est l'historique. Il y a de la magie dans Roi du Monde, mais il y a de la magie parce que les Celtes croient en la magie. Et à ce titre, je crois que c'est le troisième tome de la série qui est de toute beauté, quoi, sur cette ambiguïté de la magie et de la manière de voir le monde. Mais bon, l'auteur, et nous aussi l'éditeur, était un peu frustré de ne pas être venu dans le vieux royaume, sauf sur quelques nouvelles. Donc, il a interrompu pour l'instant Roi du Monde. Et bon, il y reviendra juste derrière. Hein. Et pour pouvoir écrire Le Chevalier aux épines. Et il est à plein temps maintenant sur l'écriture. D'où le fait qu'il a écrit cet énorme Chevalier aux épines.
Ce petit roman, qui en fait trois, voire quatre.
En trois petits volumes, n'est-ce pas? Et très très vite, enfin relativement vite, et c'est jouissif, hein, de lecture.
Oui, il fait 518 pages.
Et le tome 2 est aussi gros, hein, je précise. Hein.
Bah, ça va.
Et il fait littéralement le même nombre de pages. Hein, donc,
ah. Du coup, je voulais poser une question. Est-ce qu'on aura une chance de les voir un jour édités sous la forme les recueils que tu as derrière toi, les gros recueils. le mien, il n'est pas dans la pièce, mais est-ce qu'on aura une chance de les voir sous ce format
qui sont
de l'autre côté.
Juste derrière.
Ah oui, ils sont là, d'accord.
Là, ouais.
Oui, comme ça.
Oui.
À ton avis?
Bon, moi, je dirais que c'est possible, mais.
Eh bien, c'est possible.
Voilà. Ah,
parce que... On verra, ça dépend de plein de choses. Évidemment, on en rêve. Évidemment, vu qu'il y a trois volumes et que ces trois volumes ne sont pas finis, on rêve dans quelques années de pouvoir faire ça. Donc, volume luxueux, tirage limité. On espère pouvoir le faire. On ne le promet pas parce qu'on ne peut pas s'engager. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend du distributeur chez lequel on sera à ce moment-là. Ça dépendra de l'état des stocks de papier, parce que je vous rappelle qu'on est en
papier. Ça ne doit pas être évident en ce moment, justement, là-dessus. Hein.
C'est extrêmement difficile. Sur Le Chevalier aux épines, Thomas, ce n'est pas le papier qu'on avait choisi. Voilà.
Ah, okay.
Ce n'est pas grave. Hein. Il est très bien, le papier. Ce n'est pas le souci. Hein, mais ça n'est pas le papier qu'on a choisi. Voilà.
D'accord.
Et c'est continuellement comme ça. Alors, j'ai reçu un devis tout à l'heure et ce n'est pas le papier que j'ai choisi. Bon, c'est un papier qui est très joli. Donc, pour le coup, c'est encore moins grave, mais voilà, il faut commander super longtemps à l'avance, enfin, c'est extrêmement compliqué, vraiment, vraiment. Et à plus forte raison sur un bouquin que je faisais aux épines, où le tirage est colossal, et donc, je ne dis pas depuis combien de mois on a réservé le papier pour le tome 2, par exemple.
J'allais dire 7 ou 8 mois,
ça doit faire 8 mois maintenant, ouais.
C'était
pas le cas avant, je veux dire. Avant, on se préoccupait pas trop de ça. Ouais. Et en tout cas, on réservait pas le papier. On commandait les devis quelques mois à l'avance, bien entendu. Mais,
ouais, 2-3 mois, ouais.
Mais on commandait pas le papier, quoi. Voilà.
Ouais, parce que dans la même problématique.
Dans le monde étrange dans lequel on vit maintenant, on espère qu'on fera ces éditions de luxe dans 2-3 ans. mais on verra à ce moment-là. Parce qu'en ce moment, il n'y a ni papier ni carton, donc vous imaginez, c'est compliqué.
Ouais, ça on le voit bien dans le jeu de rôle, nous. Bah, parce que c'est des tirages beaucoup plus petits, donc c'est encore pire.
Oui.
Parce qu'ils se prennent des prix encore plus stratosphériques.
Ah, oui, c'est ça. Et puis il y avait le prix du carton.
Voilà. Et justement, parce que ça me fait penser à Jean-Philippe Jaworski, comme il est rôliste, et que là, il y a Tédéum pour un massacre, donc qui vient d'être financé là, chez Open Sesame. Est-ce que ça lui donne des envies, du coup, d'adapter ses autres romans en jeu de rôle ? Je ne sais pas si... Hein ? On en profite
pour la question.
Ouais. Oui, si on a l'occasion de voilà. l'avoir un jour. Ouais.
Voilà, bah, écoute, il faudra lui demander. Oui, c'est une envie qu'il a, bien entendu. Mais il n'a pas le temps. Voilà.
Et j'ai l'impression qu'il a un peu demandé, le monsieur, aussi.
Alors, il n'a pas le... Bah, simplement, il n'a pas le temps, parce qu'il se consacre entièrement à ses romans.
Ouais.
Et notamment à Roi du Monde, parce que ça lui prend beaucoup, beaucoup de temps. Et puis aussi, il m'a déjà dit que sur le Vieux Royaume, il n'a pas envie de se fermer des portes non plus. Il sait en grande partie quels sont les autres royaumes, duchés, etc., du Vieux Royaume. Il en sait plus que nous, bien entendu. Il nous a déjà raconté des bouts de synopsis de tel ou tel roman qu'on espère bien le voir écrire un jour. Mais il n'a pas envie, en faisant un jeu de rôle, parce qu'on lui a déjà parlé depuis longtemps, hein. Il n'a pas envie de se fermer des portes et de trop
cloisonner
son univers. Voilà, il veut laisser encore beaucoup d'années de développement possible de cet univers à travers ses romans et ses nouvelles.
D'accord. Bah, du coup, on était sur justement le coût du marché, hein, des commandes, où tu disais que c'était compliqué. Au niveau des coûts de production, c'est passé de combien ? Du simple au triple, du simple au double ? Ça fonctionnait comment ?
Ça a bougé ça a augmenté de 26 à 52%. Ouais. Wow. Et ça ne rebaissera pas.
Ah ouais.
Le problème, tant que ça ne rebaissera pas, c'est ça le problème.
Bah ouais.
Donc à chaque devis, je suis surpris. Et pas bien surpris, je veux dire. Hein. Surpris pas en bien. Voilà. C'est fou. Et donc les livres sont difficilement rentables. Voilà.
Oui, bah là, j'ai vu, de toute façon, bon, ils ont augmenté déjà. Les bouquins ont augmenté au niveau des prix, mais j'allais dire, on comprend pourquoi. Hein. Entre la part distributeur, logistique, et puis les matières premières qui maintenant ont explosé. Quoi.
Alors, heureusement, je constate aussi bien en tant que éditeur qu'en tant que libraire, le lectorat est très compréhensif et a tout à fait intégré l'augmentation des prix. Il faut dire que c'est un peu curieux, les prix avaient beaucoup baissé en fait. Dans le temps, nos bouquins, les romans étaient facilement à 26 euros. Et puis les prix, on les a baissés à 19,90. Et puis on revient à 22, 23, 25. Voilà, c'est... Le prix du papier a tellement fait le yo-yo depuis une dizaine d'années qu'il était très bas, puis maintenant il est devenu très haut. Voilà. Donc, c'est une donnée qu'il faut gérer en étant éditeur. Et puis, il y a des bouquins qui sont pas rentables.
Oui.
Voilà. Donc, il y a des bouquins qu'on ne peut pas faire. Il y a des subventions à demander pour nous aider à faire certains bouquins.
Mais je pense justement.
Il y a des ulules à faire pour aider à faire certains bouquins aussi, des fois.
Typiquement, celui-là, hein. Et puis le Celt.
Bien sûr. Shoujo et Manga, on va faire un. Shoujo et Manga, on va faire un ulule.
Ouais, c'est ce que j'avais demandé justement, quels seront les prochains ulules.
Écoute, on ne pensait pas en refaire vraiment. Et puis, parce que c'est un boulot colossal, il faut bien le reconnaître. Et puis, en fait, avec l'augmentation du prix du papier, et avec ce projet Shoujo et Shonen, qui est très ambitieux, mes collaborateurs ont décidé, donc je peux le dire officiellement, ça sera début mai, on lancera un ulule sur ce double volume, voilà.
D'accord.
Et c'est une des parutions auquel on croit beaucoup.
Donc, quand le Ulule se passe bien, à la fin, on a ce genre de truc.
Voilà, c'est ça. Avec une belle jaquette en plus, et tout, et tout.
Ouais,
ouais. Surtout, tout simplement, le bouquin existe.
Voilà. C'est ça, hein, vous le trouvez. Hein.
Sinon, le bouquin n'existerait pas. C'est pas du luxe, c'est pas. C'est vraiment que.
Ben, c'est ce format-là.
Ben, voilà, sinon, c'est ce format-là, bien entendu. Quand on fait un financement avec Ulule, ben, ça nous permet de faire un format plus joli, plus grand ou plus cartonné, avec des illustrations intérieures qu'on achète, avec des articles en plus, et ainsi de suite. Enfin, on fait évoluer le projet. Et voilà.
Ah, typiquement, bah, encore du Alex Nikolaevitch, j'ai pas fait exprès. Hein.
Typiquement, là, il y a une illustration qu'on n'aurait pas eue si ça avait été dans le petit format carré, et ainsi de suite.
Ah oui, tiens, une petite question qu'on nous pose. Est-ce que vous faites systématiquement des éditions numériques des livres que vous éditez ?
Oui, absolument. Très bonne question. Alors, pas sur les beaux livres. Sur les beaux livres, c'est pas possible, hein, de toute façon. Vu qu'ils sont en couleur et tout et tout. Oui, sur nos romans, on fait. Je crois qu'il n'y a plus d'exception maintenant. Je crois que c'est systématique. Il y a bien une version en livre numérique.
Ouais, je suis en train de regarder par exemple Lys Noir là, de François Larzem.
Oui.
Il est en e-pub, ouais.
Oui. Ah oui, non, mais tous nos bouquins. Les exceptions qu'il y avait, c'est lorsqu'on n'avait pas les droits par l'agent, si c'était un bouquin étranger. Mm. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Maintenant, les agents étrangers vendent le droit numérique en même temps que le droit poche, etc. C'est tout à fait normal. Donc maintenant, tous nos bouquins sont numériques. Puis on commence à faire des bouquins en audio aussi.
C'est vachement bien. J'y croyais pas, mais en fait, c'est super dans les transports en commun.
Oui, c'est la vie.
Ou en voiture.
On est d'accord.
Ah ouais.
C'est un truc qui m'avait saisi il y a pas mal d'années. J'avais été dans à la Worldcon de science-fiction à Londres et j'avais été pas mal dans les tables rondes d'éditeurs. Et il y avait une table ronde où les éditeurs disaient que ils avaient un certain nombre de supports où ils pouvaient exploiter un bouquin. Et je m'étais dit, purée, mais on n'a pas tous ces supports en France, nous autres. Et à l'époque, ils disaient, on a les hardcovers. Donc les versions reliées.
Ouais. Le paperback.
Le paperback, ok, ça serait la France. Le poche, ok, ça serait la France. L'audio, ça n'existait pas en France. Et le numérique, ça n'existait pas en France. Voilà. Alors, on n'a évidemment pas le hardcover si on le fait soi-même, mais ça commence en France quand même, hein, les versions collector, etc. Ça commence à s'introduire un petit peu. Mais en revanche, le numérique maintenant c'est démocratisé et l'audio commence à percer. Donc, nous on vend des droits audio. Alors, c'est pas le cas de tous les bouquins, mais on vend pas mal de droits audio.
Ouais. Alors, c'est très enfin, amusant, entre guillemets, mais c'est rigolo parce qu'à l'époque où j'avais fait mon stage, moi chez Actes Sud, remonte au début des années 2000. Dans les contrats qui étaient déjà négociés avec les États-Unis, le Japon, la Suède, etc., et même francophones, il y avait déjà dans les contrats d'édition le livre audio et le numérique. Mmh. Et c'était début 2000. C'était déjà dedans, ça ne servait pas, au cas où, c'était déjà mis dedans.
Oui, c'était déjà dedans. Oui. Ben, c'est bien pratique parce que du coup, maintenant, on peut faire l'audio. Voilà, un petit peu. Et c'est un marché qu'on espère se voir se développer. Parce que pour l'instant, il y a essentiellement Audible, c'est-à-dire Amazon.
Oui.
Mais il va y avoir, apparemment, il va y avoir d'autres plateformes.
Ah.
Il faut espérer que ces plateformes.
Concurrence, ouais.
Voilà. Il faut espérer qu'il y ait de la concurrence sur ce marché-là. Et si les deux autres plateformes, enfin, j'ai entendu parler de deux autres plateformes, pas d'éditrice de Lio, si ces deux autres plateformes pouvaient s'imposer. Ça développerait le marché, ça libérerait un peu le marché, ça serait très très bien.
Ouais, parce que je pense qu'il va y avoir des demandes de plusieurs éditeurs, voire des gros, quoi, en plus.
Ben voilà. Donc,
Du coup, chez vous, en audio, ce sera plutôt d'abord de Jaworski, du Plateau, des choses comme ça, quoi.
Ben, oui, bien entendu. Ben, chez Audible, on a Jaworski, Plateau, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Nikolaevitch et Christine Luce, je crois, chez Audible. Mais on travaille aussi avec Volume, qui est une petite éditrice bordelaise d'audio. Et on a fait du Michel Pagel, par exemple, ou du Nelly Chadour chez Volume.
Oui, la plateforme Leadsy, ouais, c'est vrai, effectivement.
J'ai pas retenu ni la nationalité ni les noms des plateformes. Enfin bon, on m'a dit qu'il y avait deux plateformes qui étaient en train de monter en puissance.
Sinon, moi j'ai une petite question perso, je pense, après toi Antoine aussi, mais si tu avais un auteur ou un bouquin que tu aurais aimé éditer, là comme ça tout de suite.
Oh, question. Tu me piques ma question.
Ah merde.
Bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, un bouquin qui peut marcher chez un éditeur peut se planter chez un autre.
Ça, c'est sûr.
Et par exemple, La Volte a publié. Je ne sais pas comment il s'appelle en français d'ailleurs, Caïpa Empire d'Alice Gorodischer, qui était une autrice argentine, et Caïpa Impérial. Voilà. Et Caïpa Impérial, c'est un roman argentin, on dirait du Ursula Le Guin, d'ailleurs la version américaine était traduite par Le Guin.
D'accord.
Et ça, c'est typiquement un roman que j'aurais aimé faire et que j'aurais pas vendu du tout. Donc chapeau à La Volte qui l'a publié, j'espère pour eux qu'ils l'ont vendu, parce que c'est pas du tout un bouquin facile. Voilà. C'est juste un exemple. De toute façon, les bouquins, ben je disais tout à l'heure, j'aurais bien aimé faire la Fraternité de l'Oiseau Blanc avec Café Argile, mais bon. Il existe chez Argile, c'est très bien, le bouquin est beau comme tout.
Oui.
Il y a tellement de choses à publier que c'est pas...
Puis alors, j'avoue que les couvertures entre Melchior Ascaride et Xavier Collette, il y a quand même du beau niveau pour vous et Argile. Hein. Mm-hmm. Donc c'est pas mal, ça aide aussi.
Oui, je suis d'accord. Oui, les couvertures de Collette chez Argile sont très 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 belles, je suis bien d'accord. C'est clair. Oui. Donc non, je ne suis pas jaloux des autres éditeurs, voilà, il y a des tas de choses. Il y a des choses que j'ai envie de publier et que j'espère qu'on ne me piquera pas, c'est tout. Et c'est pour ça que je viens de m'entendre avec Nemo sur de la science-fiction. On s'est fait une grande liste, Frédéric et moi. Et je me suis là. Non, laisse-le moi. On ne s'est pas beaucoup battu. Et voilà. Donc, j'ai obtenu à peu près tout ce que j'avais envie de faire, et Frédéric aussi, donc on est pas mal. Ah.
Est-ce qu'il y a un auteur dont le prénom commencerait par Théo d'Or, par exemple?
Non, parce que ça, les droits sont beaucoup trop chers.
D'accord, ok.
Et donc, c'est chez Gélu, cher ami.
Bah oui, je sais.
Non, Sturgeon, ça, moi, je voulais le faire, évidemment.
Nombreux à vouloir le faire, ouais.
Mais non, c'était les droits, l'agent était trop gourmand, je pouvais pas faire ça. Donc c'est pour ça que Sturgeon est chez
J'ai lu pour l'instant.
J'ai lu jusqu'à preuve du contraire. Voilà.
Donc tu vois Antoine, je n'ai pas cité mon auteur de d'habitude.
Non, je suis surpris.
Oui.
Que se passe-t-il?
Je ne dirai pas son nom parce que je le cite à chaque émission. Donc. Bon, John Brunner. Voilà.
Ah ben, écoute, John Brunner, ça sera chez Nemo.
Oui.
Voilà. J'aurais aimé en faire, mais ça fait partie de la discussion avec Nemos, et c'est Nemos qui va continuer à faire du John Brunner. Voilà. C'est un de mes auteurs favoris.
Eh ben voilà, s'est trouvé
la mafia chez Nemos, il n'y a pas de souci.
La mafia des adorateurs de John Brunner a encore frappé.
Ah bah oui, récemment j'en ai même lu un sous pseudonyme, alimenté sous pseudonyme, et putain, qu'est-ce que c'est bien.
C'est incroyable.
Il est vraiment trop fort, ce mec.
Et oui, c'est terrible. Je sais pas, toi, Antoine, si tu avais une
question. Non, j'avais une question, mais j'avais deux questions. La première, c'était, tu viens de la poser, et la deuxième, c'était, est-ce qu'on avait eu c'était l'histoire de l'intégrale de Chevalier aux épines, et j'ai eu deux réponses à deux questions que je voulais.
Voilà.
Moi, je suis content. Hein. Voilà, moi, voilà. Une petite question de Kane sur le chat que je montre de suite. Comme Nemos, prévoyez-vous de faire des intégrales?
Non, chacun son truc.
Voilà.
Chacun son truc. Le Nemos, son format, c'est les grosses intégrales cartonnées. Donc non, on ne va pas faire comme Nemos, parce que ça serait copié. Donc non. Donc non, ça ne sera pas exactement
Pas sous ce format, ouais.
Pas, ça ne sera pas dans ce format-là, ça sera, enfin, on fait des romans dans un format plus classique, qui peuvent réunir plusieurs volumes, hein, bien sûr.
Ouais, bah, la comédie Unimène ou Tyrannaël, par exemple.
Mais ça n'a pas bien marché, ces gros pavés, justement. Donc, on ne fera plus de gros pavés comme ça, parce que en fait, c'était pas une bonne idée.
Ouais, c'est compliqué à tenir en main, j'avoue. Hein.
Ouais.
J'ai lu, mais c'est vrai que...
Encore une fois, c'est pas terrible en librairie, c'est vrai, ça fait une grosse pile pour rien, enfin, pour très peu de volume, enfin bon. Donc, non, on fera pas d'autres gros pavés comme ça. Non, on s'en tient à notre format traditionnel. Le problème, enfin, c'est pas vraiment un problème, mais la question qui se pose à nous, c'est sur les romans de science-fiction un peu classiques des années 60-70, ils sont courts.
Oui.
Et donc, est-ce qu'on publie une trilogie en un seul volume ou est-ce qu'on fait trois volumes? Voilà, c'est une question qu'on va devoir résoudre. C'est vraiment la tambouille interne d'éditeur, mais c'est une question que je vais devoir résoudre assez rapidement. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de publier qui datent des années 60-70, en science-fiction, anglo-saxonne. Et donc, c'est des bouquins courts. Et donc, effectivement, je serais peut-être amené à faire des réunions de plusieurs volumes. C'est franchement envisagé. Voilà.
Ouais, pour avoir un positionnement aussi en rayonnage et des choses comme ça, quoi.
Bah, qu'il ne soit pas trop fin, qu'il soit visible. Voilà. C'est voilà, on est en train de réfléchir à ça. Donc, il y aura vraisemblablement, oui, des petites intégrales par conséquent.
Tu voulais dire quelque chose, Antoine ?
Non, vas-y, hein, ce que tu allais okay. dire.
Ouais, tout à fait. C'était bah, justement comme tout à l'heure, j'avais remontré une des premières anthologies que tu avais dirigées, donc c'était Fées et Gestes, hein, chez Étoile Vive Orion. On sait que c'est toujours un genre un peu casse-gueule, hein, les anthologies, même si c'est fabuleux. Est-ce qu'il y en aurait prévu chez Les Moutons, du coup?
On verra.
D'accord.
On verra. C'est envisagé, oui.
Je le remontre, okay. Hein, parce que celui-là... Alors,
vas-y,
ça, sincèrement, j'avoue, celui-là, si vous le trouvez en occasion, faites-vous plaisir, quoi.
Oui,
ça se trouve, hein, quand même. Hein. Enfin, je l'ai vu passer plusieurs fois. Ouais.
J'ai remarqué une autre image, effectivement. Donc, je ne sais plus combien elle avait tiré.
Ouais.
Enfin, c'était une autre image de fantasy. C'était à l'époque où la fantasy était encore peu connue en France. Et donc, voilà, j'avais réuni une anthologie pour faire un peu découvrir la.
Il y avait du Somtov, du Charles de Lint, Thomas Day, bien sûr, Peter Beagle. Et je m'étais même amusé. J'avais mis des notes sur les nouvelles à l'époque. Bon, bref. Oui. Et c'était 79 francs, s'il vous plaît. Et pas encore les euros. Non, plus sérieusement, si, Sandrine Gestin, en plus, à la couverture Béatrice Tillier, si vous arrivez à mettre la main dessus, allez-y. Hein. Vous avez vraiment des textes de fantasy moderne, en tout cas pour les années 90. Donc, franchement, ça vaut le coup. Clairement. Donc, ouais, s'il y a d'autres anthologies. Parce que c'est vrai qu'on le. On voit fleurir un petit peu hein, ces entours un petit peu partout sur des thématiques ou des mises en avant, des choses comme ça. On sait hein, que c'est pas ce qui se vend le mieux hein, clairement hein, mais faut pas dire plus.
On n'en a pas publié donc
ouais.
C'est envisagé mais voilà, il y a rien encore dans les tuyaux.
On n'a pas d'autres questions après sur le chat. Est-ce que tu as d'autres questions?
Non, je pense qu'on a fait quand même un tour, pas mal, quoi. Hein, à moins qu'il y ait d'autres choses à dire sur.
Ça, donc,
ouais, quand même. Donc, écoute, je pense que pour ce soir, c'est déjà pas mal. On se reverra sûrement plus tard, en festival ou ailleurs. C'était ça, la dernière question. La présence des moutons en festival. Où est-ce qu'on pourra vous croiser? Les éditeurs ou les auteurs hein.
Eh bien, on était là à Salon Fantastique à Paris, à Trolley les gens d'avance, et on va être à Bordeaux Geek Festival fin mai et à Uchronie du Val à Marmande fin mai également. Et puis après, il faudra attendre fin septembre les Hypermondes.
Oui.
Mérignac, près de Bordeaux.
Super festival.
Je fais partie de l'organisation. Donc c'est évidemment un festival auquel je tiens beaucoup, beaucoup, et qui se développe bien. Voilà. Et puis, ouais, je crois que c'est tout pour cette année. On retournera à Mons l'an prochain. Certainement, voilà.
je pense qu'un des jours, nous, on sera aussi amené à faire un petit tour à Hypermonde. Parce que, voilà, je mets un petit côté, un dessin un petit peu de côté, je suis aussi au comité d'orga de Étrange Grande.
Ah bon, d'accord.
Okay. Voilà.
Évidemment.
Bah oui.
Oui. Nice, bien.
Donc voilà. Ah oui, enfin, entre Thionville et Luxembourg, à Étrange Grande. Ouais. Et donc c'est vrai que du coup, avec Stéphanie Nico et autres, on commence à discuter de choses entre différents festivals. Mmh. Voilà. Donc ouais, non, c'est pour ça, je pense qu'on sera amené à rediscuter
Futur proche. Voilà, Hypermonde, c'est les 23 et 24 septembre.
Ouais, dernier week-end de septembre.
En lieu de Bordeaux. Mmh. Et cette année, la thématique, c'est les monstres.
D'accord.
Et donc on aura des auteurs comme Stéphane Plateau, Xavier Moméjean, par exemple.
Ouais.
Mais également Kathleen Jennings, dont vous n'avez jamais entendu parler, et pour cause. Kathleen Jennings, on publie son roman, c'est un roman court, c'est une novella, qui s'appelle Envol. Mmh. On va la publier fin septembre pour Hypermonde.
D'accord.
On vient juste de l'acheter, on n'avait pas du tout prévu de le publier si vite. Et puis en fait, l'autrice nous a dit « Ah ben en fait, je viens en France en septembre-octobre. » Et l'autrice, elle est australienne.
Ah oui.
Donc, elle ne sera pas souvent en Europe.
Oui. Voilà. Ah non.
Donc, on s'est dit « Bon, ben, c'est une novella, c'est pas grave, on va vite la traduire, il n'y a pas de souci, on a le temps. » Et donc, on l'a programmée pour fin septembre pour Hypermonde. Et donc, Kathleen Jennings sera là. C'est de la fantaisie urbaine à la Neil Gaiman, enfin, quelque part entre Neil Gaiman et Lock and Key, on va dire. Donc, proche de l'horreur quand même. Ça se passe dans le bush australien et waouh, c'est superbe. C'est l'écrivaine américaine Helen Kushner
qui l'a recommandé.
Qui me l'a recommandé parce que c'est une amie. Elle est publiée chez ActuSF, Helen Kushner.
À la pointe de l'épée.
C'est une super autrice. Et on se connaît bien, et elle connaît bien mes goûts. Et il y a quelques temps, Hélène m'a dit « Lis cette novella, c'est superbe. » Waouh. Et je l'ai fait lire à mon adjoint Meredith qui a dit « Bon, ben on l'achète. Hein. » Voilà. Et donc, voilà, le hasard fait que Kathleen Jennings, qui est une autrice qui monte, puisqu'elle a en fin d'année aux États-Unis un recueil de nouvelles à paraître. Oui. Et elle est illustratrice, et donc en vol et entièrement illustrée, des gravures par elle, et la couverture est par elle. Voilà, j'ai vraiment été hyper séduit par ce texte. C'est très banal de la part des éditeurs de dire « Ah, c'est mon coup de cœur ». Non, mais vraiment, c'est mon coup de cœur. Là, franchement, mon adjoint et moi, on est tombés sur le cul à lire cette novella. Donc, on y croit très, très, très fort. Et c'est super que Kathleen soit en France. Et donc, elle va venir signer non seulement aux Hypermondes, mais aussi dans quelques librairies d'aussi de là, notamment à Paris, forcément, puisqu'elle sera à Paris en octobre. Mmh. Voilà.
OK.
Bon, donc, voilà. Pour finir de répondre à la question sur ce qu'on allait publier cet an prochain, voilà, ça fait partie des choses.
Okay.
Et puis, aux Hypermondes, on aura Serge Lehmann. Mmh. L'an dernier, j'avais coécrit avec lui un Bibliothèque des miroirs, donc un beau livre sur la science-fiction.
Oui, Voyage vers la modernité.
Et là, ce qu'on publie en septembre, c'est un autre événement, parce que ça fait une bonne douzaine d'années, et j'exagère pas, et d'ailleurs, c'est peut-être plus que 12 ans, que Serge Lehmann me promettait de me filer un bouquin qui devait s'appeler L'art du vertige. Sur ses réflexions sur qu'est-ce que c'est que la science-fiction et quels sont les rapports de la science-fiction avec le réel et quelle est l'importance de l'imagerie de la science-fiction. Et miracle, Le bouquin est dans mon ordinateur, donc je vous jure qu'il va paraître.
Ouais. Il en avait parlé aux Utop, hein, quand je l'avais croisé à Nantes. Et puis, c'est pas Facebook
bouquin
en plus.
Il a énormément à cœur. Bouquin qui est de toute beauté, qui est très particulier, mais qui est super fort parce que c'est Serge Lehmann. De la part de nous. Enfin, c'est un peu Serge Lehmann, c'est un peu notre Neil Gaiman, quoi. Il n'y a pas 3 milliards d'auteurs dont on publierait un recueil d'articles. Mais publier un article de Serge Lehmann, c'est comme publier un article de Neil Gaiman. Ouais. C'est, bah oui, bien sûr. C'est super brillant, c'est passionnant, c'est hyper personnel.
Voilà. C'est, en plus, tout ce qui a été défriché dans l'histoire de la SF française, fin 19e, début 20e, c'est extraordinaire. Hein.
Ça... Ouais, et puis là, dans l'art du vertige, il a une approche très, très personnelle. C'est en partie autobiographique et c'est franchement saisissant, vous verrez ça. Mmh. Voilà, donc ça, c'est l'autre bouquin événement pour nous, pour les hypermondes. Il y a Jennings et le Serge Lehmann.
Je pense que pour nous aussi, ça va l'être. Hein, parce que enfin bon, moi, personnellement, je suis un gros fanboy de Serge Lehmann depuis La Sidération. Ouais, ça remonte hein, chez Ancrage. Mmh. Donc voilà, les premières nouvelles. Je sais pas toi Antoine si t'avais déjà lu parce que j'en ai déjà parlé de Faust hein, mais
Sidération, recueil que j'avais dirigé déjà à l'époque.
Ouais. Il y avait La Sidération, il y avait Espion de l'étrange, la trilogie Faust, Aucune étoile aussi lointaine. Bon bref, je vais pas toutes les citer parce que sinon
c'est la soirée. La brigade chimérique,
oui. Dont monsieur a le jeu de rôle en plus.
Oui. J'ai tout, bah ça c'est une de mes sagas favorites, alors oui.
Ah non, c'est un sacré auteur, hein, c'est un sacré bonheur, hein, Serge Lehmann.
Ouais, puis il a signé Vega.
Et j'ai vraiment de la chance de l'avoir à mon catalogue. Hein. C'est vraiment un bouquin, enfin là, l'art du vertige.
Bon, on va l'attendre avec impatience, celui-là.
Un bouquin assez exceptionnel, quoi. Tout à fait étonnant.
Eh bien, écoute, je pense que pour ce soir, en tout cas, pour une première, c'est pas mal. Je pense qu'on sera amené, de toute façon, comme je l'ai dit, à se recroiser, puis à repapoter sur ce qui arrive chez les moutons au fur et à mesure. On va te remercier énormément, en tout cas, hein, d'avoir accepté l'invitation.
Merci beaucoup.
Je pense que quand on aura l'occasion de se croiser, festival ou ailleurs, ce sera avec plaisir.
Absolument. Voilà. Merci, messieurs.
Merci à toi.
Bonne soirée.
Bonsoir. Allez, bonne soirée. Et allez, salut tout le monde.
Salut, à bientôt.